Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé-bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, il se tient prêt à mes côtés pour vous faire du bien, vous rassurer s'il le faut sur les sujets de santé qui vous préoccupent. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons partir à la découverte de la naturopathie. À quand remonte précisément cette pratique, cette médecine dite douce? Comment se fait en pratique le maniement des plantes, des huiles essentielles, des tisanes pour nous faire du bien, nous soulager? D'ailleurs, pour quel type de tracas du quotidien la naturopathie peut-elle réellement être bénéfique? Alors pour nous éclairer sur le sujet, nous recevrons un spécialiste en aromathérapie et herboristerie. C'est Loïc Ternisien, naturopathe et auteur du livre « Naturopathie ». Le guide saison par saison, publié aux éditions J'ai lu. Ensuite, comme tous les vendredis, Benjamin Lévesque viendra dans ce studio pour sa chronique beauté. Aujourd'hui, il va nous expliquer comment utiliser les algues. Et oui, on restera dans les plantes, encore une fois, mais pour améliorer notre apparence. Il nous dira tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de sport, mais surtout d'excès de sport et de l'impact que cela peut avoir sur notre sexualité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Jules. Écoutons-la.
Salut Mélanie, salut Jimmy. J'ai une petite question. L'un de mes partenaires réguliers vient de me prévenir qu'il était positif à la gonorrhée. Pourtant, moi, j'ai vérifié et j'ai rien de visible. Est-ce que je dois me faire tester quand même? Merci pour votre réponse.
Alors Jimmy, on va répondre à cette question de Jules d'un point de vue général. Encore une fois, bien sûr, Jules ne doit pas se dispenser d'un avis médical très rapidement. On ne fait pas de radioconsultation ici. Mais Jimmy, si un partenaire sexuel nous fait une telle annonce, c'est quoi la conduite à tenir?
Bah écoutez, la gonorrhée, le gonocoque, c'est une infection sexuellement transmissible.
C'est donc la chaude pisse, non? C'est pas ça?
Exactement, ou la blénorragie. On n'attrape pas ça aux toilettes, on attrape ça lors de relations sexuelles. Et donc, lorsqu'on la transmet aux autres, si c'est le cas, eh bien, il faut se faire dépister pour être sûr que soi-même, on n'a pas cette infection ou d'autres qui peuvent souvent s'accompagner, car on peut avoir la chaude pisse et ses cousins, que sont la syphilis ou même le chlamydia.
Bon, très bien. Alors rappelez-nous l'infection à gonorrhée, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est quoi? Je crois en plus que c'est en augmentation en France.
Alors, quasiment toutes les infections sexuellement transmissibles sont en augmentation, en dehors du VIH. Le VIH, au contraire, est stabilisé, mais ça conduit parfois à un relâchement des comportements. On met moins de préservatifs, étant donné que les traitements sont de plus en plus performants. Le gonocoque, donc c'est la chaude pisse, c'est la blénorragie. Chez l'homme, ça va donner des symptômes très bruyants. On a l'impression qu'on va pisser des lames de rasoir.
Wow.
Donc c'est extrêmement douloureux lorsque vous allez aux toilettes et souvent, on ne passe pas à côté du diagnostic. À l'inverse du chlamydia, qui va donner peu de symptômes. Et chez la femme, le gonocoque peut se manifester par ce qu'on appelle une cervicite, l'infection du col de l'utérus, avec des pertes assez nauséabondes, douloureuses, qui s'accompagnent de température.
Chez les garçons, il peut y avoir des pertes aussi, des écoulements.
Oui, il peut y avoir un écoulement.
Ouais,
l'écoulement qui peut survenir le matin, lorsque vous vous réveillez, si jamais vous avez le caleçon qui est trempé, c'est plutôt du chlamydia. Le gonocoque, c'est lorsque vous allez uriner que vous allez voir en plus la petite infection.
Merci pour toutes les précisions. Alors, s'il s'avère qu'on a été contaminé, Jimmy, bon, c'est pas une très bonne nouvelle, mais pas de panique non plus. Je crois que ça se soigne assez bien quand même.
Oui, évidemment, avec des antibiotiques. Mais avant de vous donner les antibiotiques, on fait le bilan des IST pour savoir est-ce que derrière vous n'avez pas un chlamydia. Et souvent, on associe les deux traitements avec de la pénicilline et un antibiotique de la famille des macrolides en une injection et on n'en parle plus. Et puis, on fait le bilan pour être sûr que derrière, vous n'avez pas de syphilis, l'hépatite ou même le VIH et on recontrôle ça quelques semaines après.
En revanche, on ne doit pas traiter ça par le mépris, on est d'accord, parce que non traité, là, pour le coup, ça peut être grave, il peut y avoir des conséquences.
Le vrai problème, alors, on passe rarement à côté du gonocoque parce que ça fait très très mal, c'est chez la femme, ça peut donner ce qu'on appelle une salpingite, l'infection des trompes, ou une stérilité d'origine tubaire, notamment lorsqu'on a l'atteinte au chlamydia. Donc il y a moins de risques, mais malgré tout, vous avez surtout le droit d'avoir d'autres infections. Donc on n'oublie pas, on met des préservatifs pour se protéger.
Bien sûr, mieux vaut prévenir que guérir. Merci Jimmy. À présent, on va passer tout de suite à une autre question, celle que nous a envoyée Bruno de Montpellier. Je vais vous la lire tout de suite. Mon père a 64 ans, bientôt 65, et cherche désespérément à se faire vacciner rapidement contre la Covid. Son généraliste lui a dit qu'il recevrait sûrement bientôt des doses du vaccin AstraZeneca pour vacciner ses patients, mais que néanmoins, il ne lui recommandait pas trop de faire celui-ci. Je ne comprends pas pourquoi. Ce vaccin est-il moins bien que les autres? Pourquoi tant de réticence? Alors Jimmy, effectivement, c'est étonnant venant d'un généraliste, en plus, qui va recevoir des doses, qui dit qu'il peut vacciner ses patients. Pourquoi ces réticences sur ce vaccin AstraZeneca?
C'est vrai que c'est particulier. On a reçu hier sur Europe 1, dans l'interview de 8h15 de Sonia Labrouk, le professeur Alain Fischer, qui est le monsieur vaccin, même s'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, qui nous explique très clairement que AstraZeneca n'est pas un vaccin de seconde zone, dont l'efficacité est assez remarquable pour les virus qui circulent en ce moment. on ne vous parle pas du variant africain ou brésilien, eh bien on sait que c'est 80% d'efficacité. Donc on est dans une période où on a des vaccins et donc il ne faut pas louper cette opportunité. Et donc entre 50 et 64 ans, si vous êtes invité par votre médecin à vous faire tester et surtout à vous faire vacciner, eh bien faites-le. Puisque c'est la seule façon de sortir de l'épidémie.
Certains craignent des effets secondaires dont on a parlé un peu plus fréquents avec ce vaccin AstraZeneca.
Alors,
c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a rapporté ?
Ouais. Les effets secondaires sont d'autant plus fréquents que vous êtes jeune.
D'accord.
Plus vous êtes âgé, moins vous faites d'effets secondaires. Attends, c'est une des particularités du système immunitaire. Alors pendant 48 heures, et c'est ce qu'on a observé, c'est un syndrome grippal.
Bon.
Vous allez être cassé, mais il faut avertir désormais les patients. Vous allez avoir une espèce de grippe pendant 48 heures. Si besoin, on vous laisse un arrêt maladie au cas où. Vous prenez du paracétamol, vous pouvez faire ça en fin de semaine pour peut-être éviter de louper le travail. Mais vous allez être protégé d'une maladie qui nous empoisonne au quotidien depuis de nombreuses semaines, voire quasiment un an. Donc faites-vous vacciner. N'oubliez pas qu'il y aura un rappel aux alentours de 12 semaines pour justement être protégé de façon quasiment définitive. En attendant d'y voir un peu plus clair.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout pas d'hésitation.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invité, c'est Loïc Ternisien, naturopathe, spécialiste en aromathérapie et en herboristerie. Il va nous décrypter ce qu'est précisément cette médecine dite douce, la naturopathie, dans quelle indication les plantes, les huiles essentielles ou autres infusions peuvent-elles nous aider à nous sentir mieux. On y vient très vite et c'est sur Europe 1. A tout de suite.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité pour le dossier du jour. C'est vous Loïc Ternisien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes naturopathe et auteur du livre Naturopathie, le guide saison par saison chez aux éditions J'ai lu. Vous êtes spécialisé en aromathérapie, en herboristerie. Loïc Ternisien, c'est quoi d'abord un naturopathe? Parce qu'on a tendance à penser que c'est un peu un ermite. Je dis on a tendance, c'est peut-être Jimmy et moi, hein. C'est vrai, on connaît pas bien hein, cette spécialité.
C'est
vous êtes quoi, un ermite qui vit tout seul dans les bois?
Alors ça, c'est l'image que j'adore dire, parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on a l'image de Panoramix.
Ouais.
Quelque part, c'est pas tout à fait faux, mais en un petit peu plus moderne. En fait, le naturopathe, c'est quelqu'un qui va travailler profondément sur l'hygiène de vie de la personne. Comme j'aime définir la naturopathie avec trois critères. Le premier, c'est que c'est une médecine donc, qui est complémentaire, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas remplacer la médecine moderne, elle vient en complément. C'est deux pratiques qui travaillent main dans la main. Je travaille avec beaucoup de médecins qui, des fois, sont un peu démunis pour faire passer un message. Et
ouais.
Puis, bah, des fois, ça passe un petit peu mieux avec le naturopathe. La deuxième chose, c'est que c'est une pratique qui est holistique, qui prend le corps dans sa globalité, ou plutôt l'être humain dans sa globalité. On n'est pas un foie, un rein, mais on est un être humain qui respire, qui a des émotions. Et le dernier, bah, c'est basé sur des acquis ancestraux. Tout n'est pas nécessairement prouvé par la science, mais beaucoup de choses ont fait leurs preuves depuis des milliers d'années. Et donc, c'est ça ma vision de la naturo.
Alors, est-ce que vous avez quand même quelques petits plaisirs coupables de temps en temps? Je vous ai vu arriver.
Il a envie que vous disiez que vous mangez des pizzas, des kebabs de temps en temps.
Je vous ai vu avec un gros diesel, un gros 4x4 qui faisait du bruit, qui polluait. Et je vous ai vu un gros fast-food d'une grande industrie américaine. Quand même, vous faites aussi des trucs de tous les jours.
Je dois dire que ça, c'est un mensonge. Mais c'est vraiment important de le signaler. On n'est pas dans la rigidité. Dans justement le guide saison par saison, je parle de la règle des 80-20. C'est-à-dire qu'il y a 80% du temps où on fait ce qui est bon pour notre corps, surtout quand on a des équilibres, quand on a des problèmes de santé particuliers. Par contre, 20%, il y a ce que j'appelle l'orgie alimentaire. On
vous
mange
quoi,
ce qu'on
vous
veut.
Dans vos 20% là.
Moi, j'adore la pizza et comme je viens du Québec, j'adore la poutine.
Ouh, c'est gras, ça, c'est,
ça,
ouais, c'est délicieux.
C'est très bon, mais c'est pas santé.
Bon, ça nous rassure, vous êtes normal déjà.
Ah, oui,
ça, c'est bien, Panoramix mange quand même des pizzas. Alors, ça date de quand la naturopathie? Parce que bon, c'est pas quelque chose de tout récent, je crois.
Bah, si on prend vraiment la base de la naturopathie, c'est quasiment aussi ancien que le monde. On voit certains animaux déjà pratiquent l'automédication. Si on prend une momie, la momie d'Otzi qui avait été retrouvée il y a quelques années à la fonte de je ne sais plus quel glacier, ben on s'est rendu compte qu'il portait sur lui des polypores du bouleau qui maintenant on sait sont associés à la pathologie que lui avait, donc
oui.
Une parasitose. Donc c'est un réflexe en fait que tout le monde a déjà eu, que l'être humain en tant qu'animal à la base avait, et donc c'est aussi vieux que le monde.
Vous parlez de naturopathie en termes de médecine. Alors, je pratique la médecine, on pratique probablement pas la même. Et je ne vais pas utiliser l'argument d'autorité en vous parlant des études qui sont longues quand on est docteur. Mais quel type de médecine c'est la naturopathie? Encore faut-il que ce soit vraiment une médecine, parce que dans l'esprit des gens, c'est presque un art de vivre la naturopathie. C'est pas spécialement une médecine au sens où on va vous soigner.
Exactement. Et c'est pour ça que personnellement, j'aime pas non plus le terme médecine quand on parle de naturopathie, parce qu'on a une vision qui est très différente de la médecine en l'occurrence, parce qu'on prend tellement la personne dans sa globalité que quand elle vient, eh bien, on va pas traiter. Le naturopathe ne traite pas, il ne fait pas de diagnostic. Ça, c'est profondément interdit et c'est important de le rappeler parce que...
Un naturopathe qui ferait ça, c'est pas un bon naturopathe.
C'est illégal.
Ouais, c'est illégal.
Donc au moins, le sujet est clair. Un naturopathe doit récupérer gérer soit les diagnostics qu'ont fait les médecins en amont, soit doit essayer de réajuster l'hygiène de vie de la personne, donc de vraiment rééquilibrer cette harmonie pour justement essayer de trouver la cause du déséquilibre, mais sans jamais faire aucun diagnostic, sans jamais donner aucune ordonnance. Mmh. Ça, c'est illégal et j'insiste vraiment là-dessus.
Je prends un petit exemple. Quelqu'un qui viendrait vous voir parce qu'il a eu, il a peut-être vu déjà son généraliste ou d'autres médecins, il souffre d'insomnie chronique. Vous allez le prendre comment en charge ?
Alors déjà, je vais regarder ce que j'aime dire aux personnes qui viennent me voir et qui sont des clients et non des patients, parce qu'on ne fait pas partie du corps médical, c'est je veux tout savoir d'eux. Je veux savoir comment est-ce qu'ils dorment déjà, quand est-ce qu'ils se réveillent, comment est-ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils se relaxent, quelle est leur vie au complet. Et en fonction de ça, en fait, c'est un peu comme si on redessinait un espèce de puzzle. On essaie de combler toutes les pièces et de se dire, est-ce que c'est l'alimentation ? Donc, en règle générale, quelqu'un qui a de l'insomnie a souvent un déséquilibre du système nerveux qui peut venir du déséquilibre du microbiote intestinal, donc 100 000 milliards de bactéries qui interagissent maintenant avec notre cerveau, donc on le sait. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? En tout cas, dans ma pratique, moi, déjà, la base, c'est de rééquilibrer l'alimentation pour voir quel est l'impact de ce rééquilibrage du microbiote au niveau du cerveau. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder quelques carences en supplément. S'il y a besoin, on envoie la liste des analyses qui peuvent être faites que la personne va demander à son médecin. Et donc, c'est comme ça qu'on va ajuster, de voir qu'est-ce qu'il y a besoin d'ajuster dans son mode de vie.
Alors, vous avez vous-même employé le terme de panoramique, en quelque sorte.
Ouais.
On a l'impression, parfois, l'image qu'on a, ça va être justement du petit, pas sorcier, mais au sens gentil du terme.
Un gros bouillon, on met plein de plantes
dedans. Exactement,
on met plein
de plantes.
J'assume, on m'appelle panoramique. Hein.
Et on a un petit cocktail, justement, des plantes qu'on a pu récupérer, ici ou là, évidemment, pas dans la forêt, mais... des vraies plantes.
Ouais, en fait, en naturopathie, on a plusieurs outils. C'est vrai que naturopathie, j'appelle ça un parapluie. C'est un parapluie à l'intérieur duquel il y a énormément de pratiques différentes. Donc, la phytothérapie, ex-herboristerie, il y a la nutrithérapie, il y a l'homéopathie. Bref, il y a tout un tas de choses en dessous. Et en fait, chaque naturopathe, en fonction de ses envies, de sa formation, va utiliser certains remèdes. Personnellement, j'aime beaucoup la phytothérapie parce que je trouve que les plantes médicinales, c'est quand même ce qu'on utilise depuis très longtemps.
C'est ça qui sert souvent à la base de nombreux médicaments de la médecine classique.
Il y a juste à regarder nos grand-mères. Elles ont toutes eu des tisanes, elles ont toutes eu tout un tas de remèdes. Alors, dans ma vision encore, on ne prend pas des tonnes de plantes médicinales. Le but, c'est, dans ma vision, d'utiliser le moins de composés exogènes, donc que ce soit une vitamine, un minéraux ou un minéral, ou une plante, mais vraiment d'aider la personne à se rééquilibrer par elle-même. Et au besoin, on va utiliser quelques plantes médicinales, quelques infusions, quelques mélanges à la druide.
Vous l'avez dit déjà un petit peu tout à l'heure, mais l'alimentation, c'est vraiment l'une des bases, la plus importante même presque, de la naturopathie. Vous commencez souvent par là, et vous dites même que vous avez vous-même expérimenter ça dans votre vie. Je ne sais pas, par rapport à ce que vous mangez enfant, vous avez dû changer des choses. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Alors moi, je n'ai plus honte de le dire, mais moi, enfant, au petit déjeuner, je mangeais 1 kilo par semaine de pâte à tartiner que tout le monde connaît, avec une grosse boîte de gros céréales, avec du lait et puis tout le tralala.
Plein de sucre industriel et tout ça.
C'est ça. Et je me suis rendu compte, avec les années, que mon corps arrivait moins à supporter ce régime de vie. En arrivant au Québec, j'ai développé un syndrome inflammatoire chronique des intestins. J'ai passé beaucoup d'examens médicaux. La seule conclusion que j'ai eue du corps médical à ce moment-là, c'est prenez tel médicament à vivre, puis vivez avec. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Mon corps, il fonctionnait bien avant. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas bien maintenant, mais qu'est-ce qui peut avoir changé ? Et c'est vrai que changer de pays, c'est aussi changer d'alimentation. Et c'est là que j'ai commencé personnellement et au travers de ma formation de naturopathe à étudier l'alimentation, et je me rends compte avec les années que, en règle générale, 80% des gens des déséquilibres pour lesquels on vient me voir proviennent d'un déséquilibre alimentaire.
Et donc le poutine, la poutine un peu moins, c'est mieux.
20%.
20%, c'est ça. Loïc, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, on va passer à présent à la pratique de la naturopathie dans la vraie vie, dans notre quotidien. Et vous savez quoi ? Dans cette médecine douce, alors moi je le dis, mais il ne faut pas le dire, il y a une sorte de guide de saison. On va démarrer par celle que nous vivons. En hiver, quelles sont les bases de la naturopathie qui peuvent nous aider à passer les bobos de la saison froide ? On va vous détailler tout ça. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est vous, Loïc Ternisien. Vous êtes naturopathe et auteur du livre Naturopathie, le guide saison par saison qui est paru chez J'ai lu. Loïc, vous publiez donc un guide saison par saison de la naturopathie. Et on va commencer par celle que nous vivons en ce moment de saison, puisque c'est l'hiver. Une saison assez redoutée pour notre santé. Pourquoi ?
Parce que c'est là qu'avec les écarts de température, notre corps est vraiment mis à rude épreuve en cette saison. Donc c'est une saison qui d'ailleurs se prépare Elle se prépare à l'automne, elle se prépare bien en amont pour avoir un système immunitaire qui est efficace, pour avoir un sommeil qui est efficace aussi, de manière à pouvoir croiser le moindre virus, la moindre bactérie et que notre corps arrive très bien à gérer avec ça.
Alors justement, tout à l'heure, vous parliez de la flore intestinale, le microbiote et le système immunitaire. Alors souvent, on se demande quelles vitamines il faudrait prendre dans cette période pour essayer de se sentir en pleine forme. Donc qu'est-ce qu'il faudrait prendre et qu'est-ce qu'on peut apporter avec ces vitamines?
Alors, la première chose, c'est déjà de vérifier nos carences. Et ça, c'est avec le médecin que ça se passe. En fonction de ça, là, on pourra ajuster en fonction des vitamines et minéraux dont on a besoin. Mais avant même de prendre des suppléments, c'est de vraiment travailler, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais sur son alimentation pour être certain de pouvoir bien assimiler ces vitamines et minéraux. Parce que si on a un intestin qui est hyper inflammé, qui est hyper perméable, on peut prendre tous les suppléments ou toutes les plantes de la terre, ça ne sert à rien. Par contre, une fois qu'on a fait ce travail-là, il y a la vitamine D qui est reconnue vraiment pour booster l'immunité. On a le magnésium qui, par le fait de travailler sur le système nerveux, va lui aussi travailler, si on est zen, en gros, on a une meilleure immunité. On a le zinc. Bref, on a plein de vitamines qui peuvent nous aider autant que des plantes médicinales.
Alors, vous écrivez dans votre bouquin qu'il est aussi important, en hiver, dans cette période hivernale, de beaucoup s'étirer. Pourquoi c'est si important et on s'étire comment? De quelle façon?
Alors, ce n'est pas qu'en hiver, c'est toute l'année. D'accord. Mais là, c'est vraiment basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Parce que la naturo moderne, donc occidentale, a récupéré quelques informations qui proviennent de Chine. Et on a des méridiens qui gouvernent notre corps, qui nous traversent. Eh bien, en médecine traditionnelle chinoise, les saisons sont dominées par certains méridiens et certains organes. Et donc, on va, de manière saisonnière, étirer certaines parties du corps, de préférence.
Mais alors là, en ce moment, je dois étirer quoi, par exemple, en hiver, je ne sais pas.
En ce moment, de mémoire, mais là, c'est différent parce qu'on on a changé en médecine traditionnelle chinoise. Là, maintenant, on est au niveau du méridien du foie.
Ah, d'accord.
Parce que les saisons ne sont
donc
pas les mêmes.
Donc, j'étire mon foie, quoi, c'est ça?
Le méridien du foie.
D'accord,
ouais.
Très bien. Jimmy.
Là, c'est la période un peu particulière en hiver où on a pas mal de virus. On parle du Covid, mais il y a énormément de rhinopharyngite, de bronchite, même des gastro. Est-ce que dans ce que vous proposez, on peut avoir justement des petits traitements du quotidien, des moyens simples pour essayer d'améliorer le confort? Parce que souvent, on va aller à la pharmacie, on va acheter des trucs sans ordonnance qui ne vont pas être bons pour la santé. Alors que peut-être que dans le quotidien, on a des plantes et des choses qui peuvent nous aider à nous faire sentir un peu mieux.
Oui, là encore, c'est du cas par cas. Et évidemment, j'insiste aussi là-dessus, les plantes médicinales, femmes enceintes, femmes allaitantes, enfants, bébés, etc. Donc on ne fait pas n'importe quoi, ce n'est pas des
bien
bonbons.
Sûr.
Mais sinon, il y a des plantes qui vont nous permettre de booster notre système immunitaire, comme le thym, qu'on connaît tous. Si on a besoin d'être réchauffé, on a le romarin, on a le gingembre. Si on a besoin de décongestionner, là, on va aller vers des aliments un petit peu plus piquants. Comme
le thym, par exemple, on le consomme de quelle façon? Parce que moi, j'en mets dans ma cuisine, par exemple, du thym. Ça suffit ou est-ce qu'il faut faire des infusions de thym, c'est quelle
Alors,
forme
quand on l'utilise dans la cuisine, c'est pas pour ses propriétés médicinales, c'est plus pour ses propriétés gustatives. Par contre, on peut l'utiliser en infusion, on peut l'utiliser en teinture mère, donc en macération dans l'alcool, on peut l'utiliser en onguent. Donc ça, c'est une macération dans l'huile qui nous permet en fait de faire comme des baumes, comme un baume à lèvres, qui pourrait être appliqué sur le torse. Il y a plein d'applications à faire de la plante médicinale, vrai.
On arrive à la fin de l'hiver, en tout cas on a l'impression, mais bientôt il y aura malheureusement les allergies printanières qui vont débarquer. Est-ce qu'on peut essayer de préparer le système immunitaire, je ne sais pas, avec des petites choses, pour peut-être faire un peu moins d'allergies, ou en tout cas donner le maximum de chances pour... Alors, passer outre.
Alors là, il y a trois astuces que je donne très souvent dans les consultations, évidemment, si elles sont adaptées aux personnes qui viennent me voir. C'est un, l'ortie. L'ortie, c'est une plante qui est formidable. Elle est d'ailleurs tellement inclassable, elle fait tellement de choses qu'on n'arrive pas à la classer quelque part, et c'est une très bonne antihistaminique.
Naturelle.
Et donc, quand on la prend en amont, elle permet vraiment de préparer le terrain. En général, je suggère 4 à 6 semaines avant la période des allergies pour vraiment permettre au système immunitaire de se préparer.
Là, c'est parfait parce que ça démarre en mars en général. Hein, les allergies, on est mi-février, enfin presque fin février. C'est maintenant qu'il faut commencer. Tisanes d'ortie.
Alors, on peut la prendre sous forme de tisane 3 à 4 fois par jour. On peut la prendre sous forme de gélule pour les personnes qui préfèrent ça. Mm-hmm. Mais c'est vraiment une plante que déjà nos grands-mères connaissaient. En termes de suppléments, il y a la quercétine aussi qui est très intéressante et reconnue pour ça, ou le magnésium qui lui va calmer le système nerveux, qui évite que les crises dégénèrent.
Je crois qu'il y a des œufs de caille aussi. Mais pourquoi faire?
Oui, les œufs de caille.
Moi, alors, je trouve ça très bon, hein, à l'apéro.
En fait, il y a eu une observation qui a été faite un jour qui montrait que les personnes qui élevaient des cailles avaient moins de problèmes allergiques que les personnes autour, dans la même région. Et il y a des études qui ont montré qu'il y avait un composé dans l'œuf de caille qui était un très bon antihistaminique et qu'on pouvait aussi le consommer en prévention.
Bon, très bien. Puis moi, je trouve que c'est excellent à l'apéritif. Donc, c'est parfait. Les œufs de caille pour prévenir les allergies, Jimmy.
Ben pourquoi pas. Mais si malgré tout, les allergies arrivent et qu'on a les yeux congestionnés, le nez qui coule, est-ce qu'on peut aussi se servir de ce que vous avez dit pour essayer d'améliorer les symptômes?
Oui. Et là, c'est juste une question de dosage. C'est-à-dire que quand on est en prévention, on a un certain dosage qu'on va prendre sur la durée. Par contre, une fois qu'on a les symptômes,
symptômes, on va juste augmenter de manière temporaire les dosages. Ça peut être ces plantes-là, ça peut être d'autres plantes, mais là, ça va dépendre des symptômes. Justement, vous parliez des yeux, bah, si on a les yeux, on va utiliser certaines plantes. Si on a les poumons, ça va être une autre. Si c'est du cutané, ça va être autre chose. Après, c'est vraiment du cas par cas en fonction des déséquilibres.
Bon, là, on est encore dans l'hiver, on l'a dit. On se projette vers le printemps déjà, hein. Ça nous fait du bien en plus dans le contexte actuel. C'est aussi le moment, l'hiver, où on a bouloté, on a pris parfois des kilos, on a fait quelques excès, surtout qu'on a été confinés, reconfinés, il y a des couvre-feux, beaucoup trop d'excès, beaucoup de gens qui ont pris du poids. Donc au printemps, souvent, on a envie de faire une petite cure détox, on va dire. Comment on s'y prend ?
Alors, la cure détox, bon, c'est un terme qui est générique. Personnellement, je préfère parler de nettoyage métabolique.
D'accord.
Parce que dans les faits, le foie, c'est pas une éponge et on la presse pas pour détoxifier. Même si c'est le travail du foie. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? Au printemps, il y a une plante qui est formidable, enfin plutôt un arbre, c'est le bouleau. Mmh. Et la sève de bouleau, de par ses propriétés minéralisantes, permet au niveau chimique à l'intérieur du corps de stimuler le foie, stimuler les reins et d'éliminer tous ces fameux déchets métaboliques qu'on pourrait avoir emmagasinés tout le long de l'hiver. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est aussi très ancien. On retrouve des traces au Moyen-Âge de personnes qui spontanément utilisaient des plantes après l'hiver.
Très bien, Loïc. On va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
On revient très vite avec cette émission consacrée à la naturopathie. On vous fait découvrir les rudiments de cette médecine cet après-midi, cette médecine douce. On vous détaille certaines de ses ressources, des ressources naturelles présentes tout autour de vous et qui peuvent contribuer à notre bien-être, à notre bonne santé. A tout de suite sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne cet après-midi. C'est vous, Loïc Ternisien. Je rappelle que vous êtes naturopathe spécialisé en aromathérapie et en herboristerie. Alors, la naturopathie, elle peut venir à notre secours toute l'année. On l'a vu, hein, vous venez de publier un guide saison par saison. On vient de parler de l'hiver et du printemps. Mais en été également, il y a des ressources dans la nature qui nous veulent du bien. Ça va nous faire du bien d'ailleurs. On va se projeter à l'été, là, au soleil. On le sent déjà presque sur notre peau, on en rêve. L'été, l'un des risques, c'est la déshydratation. Comment savoir si c'est le cas déjà, si on est déshydraté ?
Alors ça, je ne l'ai pas appris dans mes cours. Je l'ai appris en allant me promener aux États-Unis dans la vallée de la mort ou aux urinoirs. Il fait tellement chaud dans la vallée de la mort qu'on ne sent pas la sudation et on tombe très facilement en déshydratation sans même s'en rendre compte. Et c'est justement, je l'ai mis dans le guide saison par saison, il y a un code à couleur au niveau des urinoirs qui nous demande de regarder nos urines pour vérifier notre hydratation. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un moyen super simple pour savoir si on avait assez d'eau dans le corps, si on était assez hydraté plutôt. Et donc, généralement, en s'arrangeant pour avoir une urine qui est assez claire, on ne devrait pas avoir trop de problèmes.
Clair, c'est le bon pipi, quoi. C'est ça. Très bien.
Alors, peut-être que dans la vallée de la mort, on ne sent pas justement parce qu'on peut avoir le coup de chaleur. C'est-à-dire que la température est tellement élevée que la température corporelle augmente et donc on n'est pas forcément déshydraté. Et donc, l'urine, même si elle est de couleur rassurante, on peut se taper le coup de soleil et le coup de chaleur. Alors, apparemment, vous rajoutez un petit truc dans vos bouteilles d'eau. Je suis assez curieux de savoir ce que c'est.
Petites ampoules, je crois.
Des petites
ampoules, mais
particulières.
Un tout petit peu d'eau de mer, en fait. C'est des petites ampoules d'eau de mer qui permettent vraiment de travailler sur la reminéralisation. Donc, au niveau.
Ça s'appelle le plasma océanique.
C'est un plasma océanique, oui. Alors, c'est vieux comme le monde. Enfin, comme le monde, j'exagère. Ça date d'entre les deux guerres. Mais c'est. En fait, le plasma océanique tel qu'il est contient exactement la même composition en minéraux que le plasma sanguin. Et donc, le fait d'en rajouter dans de l'eau, c'est juste de s'assurer d'avoir les minéraux nécessaires en cas de déshydratation.
Donc, quand il fait très chaud, ça peut être utile. Parmi les rituels de l'été, il faut bien sûr boire beaucoup d'eau. Et vous dites, à température ambiante, c'est mieux. Moi, j'aime bien pourtant très, très glacé quand il fait chaud.
En fait, j'ai lu dans certains documents que boire de l'eau trop froide, en fait, demandait beaucoup d'énergie au corps pour la réchauffer, pour ensuite pouvoir l'exploiter.
D'accord.
Et donc, cette perte d'énergie n'est pas nécessaire pour le corps. C'est sans compter le fait que la boisson froide au niveau de l'estomac, médecine traditionnelle chinoise, on le recommande pas nécessairement. Donc, à température ambiante, c'est toujours préférable.
D'accord. Alors, c'est aussi que ça va perturber en fait le système de la soif. Si vous buvez de l'eau trop fraîche, votre corps va avoir l'impression d'être rassasié, d'avoir une température corporelle qui baisse tout de suite. Et donc, à température ambiante, vous ne brouillez moins le message de votre cerveau. Alors, il y a un truc qui est assez fréquent quand il fait chaud, c'est les jambes lourdes. Et c'est quelque chose que les patients se plaignent régulièrement et pour qui, je vais être très honnête, je n'ai pas souvent grand-chose à proposer, à part de dire attention au sel pour la éviter d'avoir de la rétention, mettez des bas de contention, mais quand il fait chaud, c'est pas évident. Est-ce que vous auriez 2-3 conseils justement pour les gens un peu lourdes et les œdèmes qu'on peut avoir?
Alors là, si on a fait un bon travail sur l'alimentation mais que ça reste, eh bien il y a des plantes médicinales qui sont vraiment bonnes. On a le marronnier d'Inde qui est en Europe très, très utile pour ça. On a la vigne rouge, on a la mamélisse aussi qui est très intéressante dans ces cas-là. Donc ils peuvent se prendre soit directement en massage, soit c'est par voie interne. Mm-hmm. Donc évidemment en s'assurant que ces plantes sont bonnes pour nous. Et c'est vraiment des plantes très utiles ou marcher dans l'eau froide sur le bord de l'eau.
Et ça fait, c'est déjà efficace, ça soulage bien les lourdeurs. D'accord, très bien. Puis en plus c'est agréable, donc ça tombe bien. On sait qu'il faut prendre soin de sa peau toute l'année, mais encore plus en été. Pourquoi ?
Pour éviter les coups de soleil. On est beaucoup plus exposé aux rayons UV. Et surtout que là, on a été quand même confiné un bon moment cet hiver. Donc quand les rayons vont sortir, on risque d'y aller très rapidement.
On a envie, oui.
Et c'est bien de préparer aussi son exposition au soleil avec certaines vitamines ou avec certains comme on peut en prendre dans les carottes, par exemple. Où là, on va avoir de la couleur orange, qui est un pigment qui permet aussi de préparer la peau au soleil. Donc il va être très intéressant.
Donc gavons-nous de carottes en ce moment pour préparer un petit peu notre peau pour plus tard. D'accord.
Et puis, qui dit soleil, dit moustiques. Est-ce que vous auriez 2-3 astuces aussi? Parce que forcément, ça gratte en particulier.
On les déteste. Moi, j'aime pas ça. Ils m'adorent en plus. Dans la famille, je crois qu'ils me choisissent toujours moi, j'ai l'impression. Donc, comment je les fais fuir?
Alors, pour les faire fuir, il y a une huile qui est très utilisée en Afrique qui s'appelle l'huile de Neem ou l'huile de Nîmes. Je sais jamais comment on la prononce. C'est Neem.
D'accord.
Et ça, je peux vous garantir qu'avec quelques petites gouttes sur la peau, de toute manière, vous allez sentir tellement fort qu'il n'y a pas que les moustiques qui vont
pas venir. Parce que tous les antiparasites, les anti-moustiques, moi, j'ai peur que ce soit toxique toujours et tout ça. Mais l'huile de Nîmes ou Neem, à se badigeonner
un petit peu. Très efficace pour éviter qu'il nous pique.
D'accord, ça c'est bien.
En cas de coup de soleil, on a tendance à vouloir mettre de la biafine, mais aussi des trucs de base, comme l'aloe vera. Ça peut marcher. Comment ça marche d'ailleurs, l'aloe vera, quand on a un petit coup de soleil?
L'aloe vera, ça a vraiment un effet hydratant. Donc on va l'utiliser pour hydrater la peau après le coup de soleil. Moi, j'aime le coupler avec une plante ou un macérat huileux qui va être anti-inflammatoire, qui va être le macérat huileux de millepertuis. Donc c'est une macération de millepertuis dans de l'huile. Et donc là, on a les deux en même temps. On a l'effet hydratant de l'huile végétale et l'effet anti-inflammatoire du millepertuis. C'est aussi valable avec la calendula.
Et où est-ce qu'on trouve ça d'ailleurs? On va en pharmacie, on demande ça? Ou
en pharmacie,
est obligé de passer par des...
Non, en pharmacie, ça se trouve maintenant.
Moi, j'ai trouvé l'aloe vera l'année dernière. Effectivement, je l'ai expérimenté sur des coups de soleil. On m'avait dit de le garder au réfrigérateur. Et je vous avoue, quand on le mettait le soir après le coup de soleil, c'était très agréable. Il y avait un côté très, très frais qui était vraiment très chouette.
Ça, c'est guérisseur.
Ouais, c'est vrai, j'avoue. Alors, on va terminer avec l'automne quand même, puisque on a fait l'été, on a fait l'hiver, le printemps. En automne, vous disiez déjà un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment la saison qui va mettre à rude épreuve nos poumons. Expliquez-nous.
Ça, c'est en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire que c'est l'organe qui va nous demander plus d'amour en cette saison. Donc, on va mettre un petit peu plus d'attention au niveau du maintien du poumon et du système immunitaire que l'on va préparer à l'hiver.
D'accord.
Et justement, en termes d'alimentation, qu'est-ce qu'on pourrait manger en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien là, dans l'assiette en dehors du fast-food que je vous ai vu manger tout à l'heure?
En automne ou tout de suite?
En automne, automne, hiver, printemps, on peut tout faire. En hiver, non, c'est vrai qu'on est en hiver encore en ce moment, on a l'impression qu'on est en automne. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait manger?
Là, maintenant, tout ce qui va être bon, encore une fois, pour notre microbiote, donc on va vraiment consommer beaucoup de prébiotiques. On va privilégier les aliments qui vont être riches en chlorophylle, qui vont permettre au corps de pouvoir beaucoup plus facilement rééquilibrer son pH. Tout ça associé aux légumes de saison, qui vont aussi, parce qu'ils de rien, s'ils sont de saison, il y a une raison aussi pour laquelle on va les consommer. Ils vont apporter.
Dans la naturopathie, je veux dire, c'est très important de respecter dans l'assiette aussi ce calendrier des saisons, de ne pas aller chercher des bananes. Maintenant, il y en a toute l'année, mais bon.
Après, ça vient aussi avec la philosophie.
Ils sont un peu tristounes, les légumes de l'hiver, même s'ils sont bons. Mais bon, tous les trucs racines, au bout d'un moment, je trouve qu'on s'en lasse un peu.
Je suis tout à fait d'accord, j'en peux plus de manger du poireau.
Moi, j'ai hâte de voir les aubergines qui vont débarquer, qui seront bonnes, quoi, vraiment.
Il y a l'ail aussi qui est très intéressant en cette saison, puisque l'ail permet aussi de travailler au niveau du système immunitaire à des propriétés anti-parasitaires et antibactériennes à large spectre. Donc, en ce moment, en consommer régulièrement, en plus d'être un prébiotique, permet de tonifier tranquillement son système immunitaire.
Je me suis rendu compte que je commençais à vieillir parce que le soir, je prends des infusions.
Ah, moi aussi.
Donc, je pense que c'est un signe de vieillissement, honnêtement. Et avec ma femme, on se dit,
on a de tout en ce moment. On a la badiane, du thym, du romarin, de la camomille.
Miel, gingembre,
citron. J'en ai jamais eu autant chez moi.
En fait, il n'y a pas que moi le druide.
Ah oui, Jimmy et moi, on est en train de se transformer.
S'il y a quelques infusions qu'on pourrait prendre le soir pour se détendre, qu'est-ce que vous conseillez?
Alors, Le soir, si on a vraiment envie de se mettre dans une petite ambiance de relaxation, il y a la passiflore qui va être intéressante, la valériane, il y a l'aubépine. L'aubépine est aussi très intéressante, elle travaille sur le cardiovasculaire, donc elle nous permet vraiment de rentrer dans cette détente-là.
La camomille, c'est vrai ou pas? Alors, parce que moi, c'est celle-là que je prends.
La camomille aussi. Par contre, au goût, tout le monde ne l'aime pas nécessairement parce que c'est très amer. Donc, en tout cas, c'est moins ma préférée, mais on peut faire des petites synergies, des mélanges comme ça avec l'aubépine, la camomille, la valériane.
Et justement, l'aubépine, valériane, en général, le goût, moi, en tout cas, l'image que j'ai de la valériane, c'est pas terrible, hein, c'est dur. Hein.
Ah, vous êtes connaisseur, en fait. J'aurais pas imaginé boire des infusions de valériane. Mais bon.
Je vous dis, je vieillis, Mélanie.
Non, la valériane, c'est très intense au goût. Je confirme. La valériane, il faut souvent la prendre à dose homéopathique dans son infusion, mais associée à des plantes qui sont plus agréables, ou dans lesquelles on peut mettre aussi des... si on a des oranges bio, on peut garder les pelures et les faire infuser.
La valériane, elle a aussi des vertus pour le sommeil, en fait. Elle peut aider en complément le soir si on a du mal à s'endormir. Ça peut aider, c'est un moyen naturel plutôt que
prendre
des anxiolytiques.
Avec les écorces d'orange, je pense que ça passe bien. Hein,
et s'il y a des personnes qui font des cauchemars avec la valériane, c'est normal. Je me suis rendu compte avec le temps et l'expérience, c'est quelque chose qu'on m'a jamais appris, mais qu'il y a des gens qui vont faire beaucoup plus facilement des cauchemars quand ils la consomment.
Très bien. Alors, côté alimentation, justement, je reviens sur l'automne, hein, parce que c'est la dernière saison dont on parle aujourd'hui. Vous dites qu'il faut manger assez piquant en automne, mais pourquoi du piquant?
C'est associé à la médecine traditionnelle chinoise. C'est ce qui va permettre vraiment de travailler au niveau du tonus du poumon.
Donc, on mange quoi? Du piment? Enfin, sous quelle forme le piquant, vous le prenez, vous?
Alors, le piquant, c'est vraiment associé à la saveur. Donc, on va avoir...
Piment rouge, du piment de Cayenne, des choses comme ça.
Moi, on peut avoir du réfort aussi.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ça, c'est le piquant.
Alors, on parlait d'automne, et pour finir avec ça, c'est peut-être que c'est la saison aussi des poux, parce que l'automne, c'est la rentrée à ce moment-là, mais les poux, il y en a toute l'année.
Est-ce que vous avez déteste les poux, alors je veux des remèdes naturels qui marchent.
Un petit remède, justement, pour venir à bout des poux.
Alors, avant de commencer avec les huiles essentielles et tout ça, il y a un remède de grand-mère qui marche, mais de manière phénoménale. C'est vous allez imbiber le moindre cheveu de votre enfant avec de l'huile de coco ou de l'huile d'olive, et vous allez laisser bien macérer pendant une bonne demi-heure. En règle générale, les poux ne peuvent plus respirer, donc à un moment, il n'y a plus grand-chose qui survit.
On avait parlé de l'huile de coco, effectivement, c'est efficace. Et après, il y a d'autres choses dans les huiles, justement, essentielles, vous disiez.
On peut utiliser l'huile essentielle Lavandula angustifolia, donc la lavande vraie, qui a des propriétés en insecticide.
Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense au pissenlit. Est-ce que c'est une herbe, une plante qui sert à quelque chose? Pissenlit, j'aime bien le mot d'ailleurs.
Vos parents, non, prenaient des pissenlits.
Ben oui, c'est j'ai l'impression.
Manger des salades de pissenlit.
Mais ce n'est pas pour rien. Le pissenlit, on a toujours dit qu'on pouvait faire pipi au lit si on touchait au pissenlit.
Moi, je ne voulais pas le toucher surtout.
Le pissenlit, en fait, a une action au niveau des reins, donc au niveau du système urinaire. Donc, c'est très efficace pour tonifier les reins. Ça participe aussi à l'élimination des déchets métaboliques. Donc, on va aussi souvent utiliser le pissenlit en détox. Donc, ce n'est pas pour rien, en fait, si on regarde ce que disaient nos parents.
Mais sous quelle forme, du coup? En salade, frais ou... Alors, est-ce qu'il faut des tisanes, encore une fois?
En salade, ça va être un travail de terrain. C'est plus pour le goût, mais quand on va manger, ça va stimuler les reins, mais sans avoir une efficacité médicinale. Il faudrait manger beaucoup de salade, là, se transformer en lapin. Mais on va utiliser plutôt la décoction. On va prendre la racine, on va la faire sécher, puis on va la faire directement macérer dans de l'eau pendant une trentaine de minutes.
Pour faire du bien à nos reins, d'accord. Très bien, merci beaucoup Loïc de nous avoir accompagnés cet après-midi. Pour ceux qui voudraient en savoir davantage, je rappelle votre livre Naturopathie, le guide saison par saison, aux éditions J'ai lu. Merci encore.
Merci.
Dans un instant, comme tous les vendredis, Benjamin Lévesque débarque dans ce studio pour sa chronique beauté. Et aujourd'hui, il va nous expliquer comment utiliser les algues pour se faire encore plus beau. Jimmy, je suis sûre que vous avez hâte. Allez, vous aussi, restez bien avec nous sur Europe 1. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Cette semaine, Benjamin, vous êtes allé voir du côté des océans pour nous parler d'un ingrédient magique pour notre cerveau, notre peau, pardon.
Oui, les algues.
C'est peut-être bon pour le cerveau aussi.
Les algues marines, elles sont de parfaites alliées pour notre peau. Et ce n'est pas nouveau, puisqu'on les utilisait déjà dans l'Antiquité. Comme le raconte Romuald de Vallée, il est le directeur scientifique du laboratoire Phytomère.
Les Romains déjà utilisaient les algues pour leurs vertus déjà autour de tout ce qui était un peu rhumatisme. C'était très dans la spa-thérapie, hein. C'était sanita per aqua, la santé par l'eau. Rhumatisme, bienfaits liés aux minéraux marins. Quand on regarde les vrais cosmétiques, ceux qu'on se met sur la peau, ça fait depuis les années 70. Et puis il y a eu quand même ces 15 dernières années un super engouement, c'est-à-dire des marques non forcément légitimes dans le monde marin maintenant utilise des actifs venant des algues marines.
et qu'elles proviennent des grandes profondeurs de l'Atlantique ou sur les bords de mer à marée basse. Au total, c'est une centaine d'espèces d'algues que l'on peut retrouver dans nos produits cosmétiques.
Et où est-ce qu'on peut trouver ces produits, Benjamin, par exemple ?
Eh bien, on a longtemps utilisé les algues comme exfoliants, donc on en retrouvait énormément dans les peelings, dans les gommages. Mais aujourd'hui, on rajoute des molécules d'algues dans la plupart des cosmétiques, hein, les crèmes, les démaquillants, les soins anti-cernes, les après-rasages pour vous, Jimmy, jusqu'au shampoing.
Benjamin, Jimmy, vous utilisez beaucoup d'algues, vraiment ?
Oui, évidemment, matin, midi et soir.
D'accord, ok. Pourquoi elles sont autant présentes, Benjamin, dans nos crèmes ? Qu'est-ce qu'il y a de commun, finalement, entre une algue et notre peau ?
Eh bien, j'ai envie de vous répondre presque tout, hein, hormis cette couleur verte. En fait, notre peau a quasiment la même structure biochimique que les algues, explique Romuald Vallée.
Les cellules de la peau baignent dans une espèce de gel ou d'eau salée. Quand on regarde la composition de cette eau salée, c'est la même composition que de l'eau de mer diluée. Cette peau qu'on a, c'est le même rôle que la peau d'algue. Le deuxième point, tous les systèmes de défense des cellules de la peau, les antioxydants, ben ce sont les mêmes que les algues ont inventés. Et puis le troisième point, qui est le truc super scotchant, les algues brunes, vous savez, celles qu'on voit des fois apparaître à marée basse ici à Saint-Malo, chez nous, où on a nos labos. Eh bien, si on les regarde bien, quand elles sont dehors, au soleil, en dehors de l'eau, eh bien, elles bronzent. Elles brunissent le temps de l'exposition à l'extérieur. En fait, ce brunissement, ce n'est pas du pourrissement. C'est en fait, elles produisent un pigment. Et ce pigment, quand on l'analyse, il protège des rayonnements UV, exactement comme les mélanines de la peau. Eh bien, cette mélanine, les algues brunes, ont exactement la même mélanine.
C'est incroyable ça, Benjamin, les algues bronzent. Bon, ben, est-ce qu'elles ont toutes les mêmes actifs précieux pour notre beauté ?
Eh bien non, elles ont chacune une spécificité, un point fort en fonction de leur couleur. Le directeur scientifique de Phytopair nous explique justement les différents pourvoirs pour chaque algue, qu'elle soit verte, rouge, brune ou bleue.
C'est que les algues brunes, le wakame, l'undaria qui est utilisé en food, eh ben elle, à marée basse, elle est capable avec sa peau de protection de se protéger contre la déshydratation. Donc tout naturellement, elles sont plutôt hydratantes celles-là. Les algues rouges, elles seraient plutôt micro-circulation, drainage. Et puis les bleus, c'est souvent des micro-algues. Les plus anciennes qui existent sur la Terre, c'est celles qui ont inventé tout, qui ont inventé les systèmes de défense antioxydantes. Donc les algues bleues seraient plutôt antioxydantes. Les vertes, on est plutôt riche en protéines et on va plutôt être sur la restructuration, l'anti-âge, l'anti-ride.
Et il n'y a pas que dans l'océan que l'on retrouve ces algues précieuses pour notre peau. Il en existe aussi dans les eaux douces, hein, comme les mares, les lacs ou les rivières, comme le dit Valérie Debray, elle est docteur en pharmacie pour la marque Florence Nature.
Par exemple, la micro-algue verte qui s'appelle la chlorella, déjà elle doit son nom à la présence de chlorophylle, qui va être même plus élevée que dans la spiruline. Et en fait, elle a fait ses preuves aussi dans les produits anti-âge, notamment pour les produits contour des yeux, parce qu'elle va permettre de raffermir le contour de l'œil et diminuer les cernes.
Enfin, je sais que l'on n'a pas tous la chance d'avoir une baignoire, mais il existe des bombes de bain composées d'algues marines pour profiter de ses bienfaits tout en se relaxant.
Bon, Jimmy, vous la voulez dans le bain, l'algue, sur le visage, dans votre assiette ? Qu'est-ce que vous préférez ?
Sur le visage, si c'est un capital beauté, pourquoi pas ? C'est un truc naturel, pas chimique.
Avec tous les maquis que vous mangez, là, déjà, vous faites du bien, vous.
Eh ben, exactement.
Il a une peau radieuse.
Quel menteur.
Merci beaucoup, Benjamin, pour ce conseil beauté du vendredi.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio tout de suite. Catherine Blanc qui est sexologue et psychanalyste. Et on va finir la semaine, Catherine, avec vous, avec cette question de Sandy. Jimmy, tiens, vous nous la lisez ?
Oui, car c'est quelque chose qui ne va pas m'arriver. Mon mari est accro au sport.
Ah oui, mais j'avais même pas vu, vous savez quoi, et finalement,
sûr.
Ça tombe très bien.
Donc, cet homme est accro au sport et c'est de pire en pire, je le comprends. Il est obsédé par son corps, mais j'ai remarqué que depuis, il a beaucoup moins de désir sexuel. Comment c'est possible ? Est-ce que Catherine, le sport à outrance, est-ce que ça pourrait impacter la libido du mari de Sandy ou finalement, ça n'a strictement aucun rapport ?
Alors, pour l'instant, les études ne mettent pas en évidence tellement les choses, puisque il y a eu, on le disait beaucoup des femmes, tout ça. Simplement parce que les femmes faisant du sport à haut niveau, elles s'asséchaient, elles étaient souvent en aménorrhée et étant en aménorrhée, leur cycle était bousculé, ce qui entraînait potentiellement une défaillance au niveau de leur libido. Pour les hommes, on ne mettait pas tellement ça en évidence puisque les choses ne se jouent pas tout à fait de la même façon, encore que certaines études essaient de pointer la possibilité que le sport à outrance ou parce que ça fatigue ou parce que ça donne moins d'énergie, parce qu'on a un plaisir qui se fait par le biais du sport. Et donc, du coup, la testostérone utilisée dans la sexualité, qui est l'hormone du désir, serait moins active. Le fait est qu'on dit à certains sportifs de haut niveau, avant un match, par exemple, ne faites pas l'amour avant le match pour avoir plus de niaque, plus d'agressivité.
Je me souviens qu'on avait interdit les femmes de venir lors d'une coupe du monde, je ne sais pas quoi. Ça me dit quelque chose. C'était juste pour des histoires de performance sportive.
C'était pour qu'ils soient. En fait, c'était pour qu'ils aient
plus d'agressivité.
Pour qu'ils soient
concentrés, c'est tout.
Mais... Oui aussi, mais ils n'ont pas osé le dire. évidemment.
Non, mais c'est parce que effectivement, la sexualité nécessite de l'agressivité. Oui. Puis derrière, il y a une détente. Or, on voulait les garder agressifs sur le terrain.
Ouais. Oui, mais bon, là, il doit faire quoi ? Un peu de salle de sport ?
Dit accro, quand même, obsédé par son corps. Il doit faire de la muscu, non ?
Il
n'a
pas besoin d'avoir cette agressivité pour faire de la musculation.
Ouais, c'est pas son sport.
C'est pas
absolument.
Donc,
pas
son métier.
Donc là, je pense que de toute façon, c'est pas une évidence. C'est pas parce qu'il fait du sport, à moins de se fatiguer, d'avoir mal partout, etc. C'est peut-être certainement qu'il fait du sport pour fuir la relation, le cas échéant. Donc évidemment,
c'est
la libido.
C'est pire ce qu'elle pensait, je pense, Sandy, là, ce que vous dites.
Peut-être qu'il va voir ailleurs, en fait. Hein. C'est
alors,
ça aussi.
Alors, et puis peut-être qu'il se regarde, dit-elle. Mais là et c'est son point de vue. Ce qui est amusant, c'est que là, c'est une question. On ne va pas juger ce qui se passe pour lui, mais plutôt
jugeons que peut-être qu'il est en train de voir ailleurs et qu'il a même fait du sport.
Non, mais
pour
arrêtez
plaire
ça,
à une autre.
Jimmy, vous allez arrêter Sandy, enfin.
En tout cas, il se regarde et il la regarde pas. C'est sa plainte à elle. Et donc, dans la mesure où il se regarde, elle se sent dévalorisée, elle se sent pas désirée, elle se sent pas convoitée, comme si lui se faisait beau en effet pour une autre, au lieu d'être fière. Parce qu'en général, quand même, il faut le dire, le sport n'est pas l'ennemi de la sexualité et de la libido, au contraire, en général, on se sent mieux, on se sent plus dynamique, on se sent plus musculé.
Elle parle d'obsession de son corps, il est obsédé par son corps, j'imagine, en train de se regarder toute la journée les pectoraux, là, tac, 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 devant la glace. Est-ce que finalement, quand on devient obsédé par son propre corps, du coup, on regarde peut-être, on a moins de plaisir à regarder le corps de l'autre aussi, ça, c'est pas impossible, non ?
Si on met la barre très haute, on peut considérer...
Il y a des gens qui s'aiment, hein, comme ça, beaucoup.
Ou qui s'aiment pas, mais qui se cherchent beaucoup, ou se réparent beaucoup, hein, souvent des hommes qui ont justement péché en étant assez mégroulé,
obèse, on maigrit,
et tout d'un coup il y a une sorte de revanche et ils mettent beaucoup d'énergie là-dedans et ils sont assez cruels vis-à-vis d'un partenaire qui ne serait pas justement dans ce même processus, donc pas désireux de ce partenaire-là, par exemple. Mais bon, là en l'occurrence, je pense que ça peut être aussi très masturbatoire au sens pas sexuel mais au sens intellectuel du terme, c'est je me regarde, je m'aime. Et voilà, et c'est Narcisse qui se
noie. Bon, moi, je peux conclure, ça vous arrivera jamais, Jimmy.
Non, mais peut-être que Sandy, elle a qu'à se mettre au sport, elle aussi. Elle aura plus de libido et tout le monde sera content.
C'est une super solution aussi.
Alors, avant qu'elle ait plus de libido, il faudra vraiment qu'elle soit sèche, parce que sinon, elle risque d'en avoir encore. Et
c'est un moyen de partager un truc ensemble, quand même.
Et c'est ça, peut-être que le partage et puis.
Jimmy, il est dans la communication.
Mais oui, c'était dans ce sens-là,
c'est beau.
Tout de suite.
Bon, en tout cas, il me semble que ce couple, elle voudrait être regardée, vue, et elle le critique, lui qui se regarde, qui ne fait que se regarder. Peut-être qu'il y a quand même à l'origine, non pas le sport qui pêche dans cette libido absente, mais une relation qui pêche. Deux personnes qui voudraient que le désir n'aille que dans un sens, c'est-à-dire elle vers lui vers elle, et lui qui voudrait que ça soit lui se satisfait de lui-même. Donc évidemment, là,
il y a quand même
une impasse, et ce n'est pas le sport. Et je pense même que le sport est une façon d'aller exulter ailleurs pour fuir peut-être. C'est aussi le cas quand des femmes n'ont pas de désir, ou l'inverse d'ailleurs, l'autre va faire du sport pour trouver une jubilation et un plaisir physiologique qu'il n'a pas dans la sexualité pour justement ne pas aller voir ailleurs. Vous voyez, Jimmy, c'est pas tout.
On maintient quand même, Jimmy, que le sport c'est excellent pour la santé.
Exactement, évidemment.
Absolument.
Très bien. Et pour la sexualité aussi en général.
Oui,
merci
bien sûr.
Beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Tout de suite, historiquement vôtre, comme tous les après-midi, de 16h à 18h, Mathieu Noël et Stéphane Bern.